Docteur Luc.
Docteur, j'ai une question à vous poser.
Docteur, que dois-je prendre pour soigner ce mal dont je souffre?
Docteur, j'ai de la fièvre le soir et cette fièvre disparaît le matin au réveil. Que pensez-vous que j'ai et quels médicaments me conseillez-vous?
Docteur Luc est une série d'émissions qui vous conseillera tant sur votre santé physique que spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Une émission de Transworld Radio, produite et présentée par votre serviteur, Abdoulaye Sango.
Et bien entendu, je suis accompagné par Fidel Atse à la prise de son. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque cérébrale. Qu'est-ce que Dr. Luc a à nous dire sur l'attaque cérébrale? L'attaque cérébrale est l'une des causes majeures des décès dans le monde. En Afrique, c'est l'une des plus grandes causes de décès des personnes du troisième âge. Connaissez-vous une personne qui a eu une attaque cérébrale? Il y a des chances que vous en connaissez une. Premièrement, qu'est-ce qui provoque une attaque cérébrale? Deuxièmement, peut-on prévenir les attaques cérébrales? Troisièmement, comment peut-on prendre soin de moi si j'ai une attaque cérébrale ou comment puis-je prendre soin d'un membre de ma famille qui a une attaque cérébrale? Quatrièmement, après une attaque cérébrale, peut-on marcher ou parler? Enfin, si moi j'avais ou si quelqu'un que je connais avait une attaque cérébrale et qu'elle ou moi en venait à mourir, ce qui est la résultante de cette maladie, que nous arriverait-il après la mort? Y a-t-il une espérance après la mort? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une personne que je connais et qui a eu une attaque cérébrale. Azaf avait 72 ans. Il avait eu pendant plusieurs années une santé assez bonne jusqu'à ce qu'il découvre avoir une haute tension artérielle. Il était allé voir le médecin parce qu'il était parfois pris de vertige. Et pendant qu'il l'examinait, le médecin lui a appris que sa tension artérielle était haute. Sa tension était à 16 sur 10, ce qui amena le médecin à lui demander de faire des exercices physiques et de perdre du poids pour la faire baisser. Si cette option ne fonctionnait pas, alors Azaf allait devoir suivre un traitement médical pour la faire baisser. Azaf fit ce que le médecin lui demanda. Il commença à faire des exercices physiques en marchant tous les matins pendant 20 minutes. Il se rendit compte que pendant les 10 dernières années qui ont suivi son départ à la retraite, il n'avait pas été très actif et avait pris 5 à 8 kg. Azaf fit des exercices physiques pendant 3 mois et retourna voir son médecin. Si le niveau de sa tension s'était amélioré, il était encore élevé. Il était cette fois à 15 sur 9,5. Après s'être entretenu avec lui, le médecin lui recommanda un traitement médical pour faire baisser sa tension. Azaf accepta sa proposition. Azaf a fidèlement pris ses médicaments pendant plusieurs années. Il a aussi perdu entre 5 et 8 kilos et sa tension artérielle s'est normalisée, passant à 14 sur 8,5. Il se sentait beaucoup mieux après ses exercices physiques quotidiens, perdant du poids et sa tension artérielle se normalisant. Un jour donc, sans s'entretenir avec son médecin, Azaf arrêta de suivre son traitement. Il se sentait bien et croyant du coup que ses problèmes de tension artérielle étaient sous contrôle, il ne voulait plus prendre de médicaments. Par ailleurs, les médicaments lui donnaient toujours des rougeurs au visage pendant une heure ou plus après qu'il les ait pris. Il n'avait jamais informé son médecin de cela. Il n'avait non plus pas dit à sa famille qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments. Le mois qui a suivi, Azaf se sentait bien. Il était content de ne plus avoir ces rougeurs au visage provoquées par les médicaments et pensait « Mes problèmes de tension sont terminés. Je n'aurai plus à prendre ces médicaments. » Puis, soudainement, un jour, pendant qu'il était en train de se raser, sa main a commencé à s'engourdir et il s'est mis à avoir un sérieux vertige, pire que celui qu'il avait eu plusieurs années auparavant. Sa main et sa jambe droite ont commencé à s'affaiblir. Il appela sa femme qui vint le trouver au sol. Sa famille le transporta donc à l'hôpital où le docteur confirma qu'il subissait une sérieuse attaque cérébrale. Azaf n'a jamais plus marché ni pu encore se raser, écrire ou manger parce qu'il était droitier. Durant les mois qui ont suivi, Asaph est devenu dépressif parce qu'il devait se faire aider par quelqu'un pour tout. C'était très humiliant. Asaph commença vraiment à réfléchir au but de la vie et à ce qui lui arriverait après la mort. C'était parce que le docteur lui avait dit qu'il était possible qu'il ait une autre attaque cérébrale qui cette fois-là l'emporterait. Et il avait l'autre jour entendu parler à la radio de la vie après la mort. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il en parlait avec des amis, mais aucun d'entre eux n'était intéressé à discuter avec lui. Puis un jour, il entendit encore parler à la radio de cette question de la vie après la mort. Et ce jour-là, le nom de Jésus-Christ y était associé. Qui était donc Jésus-Christ? On lit dans le programme radiophonique que Jésus était le Fils de Dieu, venu sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés, et on expliqua que la Bible ou la parole de Dieu disait ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On expliqua que péché, c'était se rebeller contre le plan que Dieu avait pour l'homme, et on dit aussi ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » On expliqua ensuite que la Bible faisait une merveilleuse promesse. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, et que Jésus était mort sur une croix pour nos péchés, qu'il avait porté sur lui nos péchés et pris le châtiment qui nous était réservé, que c'est qui avait causé sa mort. Mais ensuite Asaph entendit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu avant, ni de sa mère bouddhiste, ni de son père confucianiste. Ce Jésus-Christ était ressuscité des morts. Il n'avait jamais entendu ça au sujet de quelqu'un auparavant. Il entendit encore que parce qu'il était ressuscité des morts, Jésus-Christ avait vaincu la mort et que la mort n'était pour cela plus notre ennemi ou quelque chose dont il nous fallait avoir peur. Asaph alors avait une autre question. Comment ne pouvait-il plus avoir peur de la mort? Le programme radiophonique assurait ensuite que la Bible disait ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Asaph rendit l'âme plusieurs mois après une deuxième attaque cérébrale. Mais il ne mourut pas avec la crainte de la mort. Il mourut avec l'espérance d'être avec Jésus-Christ pour l'éternité parce qu'il avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur pour avoir le pardon de ses péchés. Avant de parler de l'attaque cérébrale, voyons comment vous pouvez la prévenir. Premièrement, il vous faut contrôler au moins une fois par an votre tension. Et si elle est élevée, suivre les recommandations de votre médecin. Deuxièmement, il vous faut faire 30 minutes d'exercice physique plusieurs fois par semaine. Troisièmement, il vous faut ne pas prendre de poids. Quatrièmement, et enfin, vous avez ceci, parlez-en avec votre médecin pour voir lesquels doivent vous pousser au changement de comportement. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Asaph et ce que c'est pour un patient de subir une attaque cérébrale, comment pouvez-vous savoir si vous courez le risque d'avoir une attaque cérébrale? Regardons aux facteurs de risque d'une attaque cérébrale. Le premier facteur, c'est la tension artérielle. Il est très important. La tension artérielle normale devrait être inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Et vous devez contrôler votre tension artérielle au moins une fois par semaine. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Si vous avez 60 ans et plus, vos chances d'avoir une attaque cérébrale sont plus grandes. On peut cependant être plus jeune et l'avoir, mais la probabilité est plus grande pour les personnes âgées. Le troisième facteur, c'est le diabète. Le quatrième, c'est un taux de cholestérol et de triglycérides élevé. Le cinquième, c'est le tabac. Le sixième, c'est l'hérédité de l'attaque cérébrale. Le septième, c'est la consommation d'alcool. Le huitième, c'est d'avoir déjà eu une attaque cardiaque. Le neuvième, c'est le sida. Le dixième, c'est la prise de drogue comme l'héroïne. Le onzième, c'est d'avoir déjà fait une valvuloplastie. Si un seul de ces facteurs de risque vous concerne, il vous faudrait discuter avec un médecin pour voir si vous courez le risque d'avoir une attaque cérébrale. Quels sont maintenant les signes énonciateurs ou les symptômes d'une attaque cérébrale? Premièrement, le vertige est un signe important. Si vous avez un vertige qui persiste sans cesse pendant une heure ou de façon intermittente pendant plusieurs jours, vous devez vous faire voir par un médecin. Deuxièmement, un engourdissement au niveau du visage, des bras ou des jambes. Troisièmement, un affaiblissement des tissus musculaires du visage, des bras ou des jambes. Quatrièmement, une difficulté à avaler sa salive. Cinquièmement, des troubles de la parole. Sixièmement, des troubles de la vue. Si vous avez un seul de ces signes ou symptômes, il vous faudrait voir un médecin ou vous rendre immédiatement dans un hôpital pour un contrôle. Les gens posent souvent la question suivante. Pourquoi devrais-je aller tout de suite à l'hôpital s'il n'y a rien qu'il puisse faire dès que l'attaque cérébrale commence? La réponse à cela, c'est qu'il existe depuis plusieurs années de nouveaux médicaments puissants que l'on peut trouver dans plusieurs pays du monde et qui peuvent détruire un caillot engendré par une attaque cérébrale. Mais ces médicaments, pour être efficaces, doivent être pris dans les 2 heures qui suivent la survenance de l'attaque. Attendez un peu, vous dites. Qu'est-ce qui provoque une attaque cérébrale? Il y a en fait plusieurs types d'attaques cérébrales. La plus commune survient quand une partie du vaisseau sanguin dans le cerveau est obstruée à cause d'un durcissement des artères. Cette situation rend difficile la circulation du sang dans ces artères. Quand le sang ne peut pas circuler des artères vers les cellules du cerveau, ces cellules meurent et il en résulte une congestion cérébrale. Une attaque cérébrale est aussi provoquée par un caillot de sang qui se déplace du cœur vers le cerveau. La troisième et dernière cause d'une attaque cérébrale, c'est quand une petite poche d'un vaisseau sanguin se rompt dans le cerveau et que le sang qui le renferme se répand. Ces 2 dernières causes sont moins courantes que la première dont il a été fait mention. Votre médecin vous dira quelle est la véritable cause de votre attaque et comment vous devez la traiter. Toutes les attaques cérébrales ne sont pas soignées de la même façon. Si un membre de ma famille avait une attaque, la faiblesse ressentie, les troubles de la parole ou autres ne disparaîtraient-ils jamais? Dans le cas d'Azaf, par exemple, les symptômes sont demeurés. Parfois, ils demeurent et parfois, ils disparaissent. Il est très difficile de savoir qui se sentirait mieux ou qui verrait son état se dégrader. Mais selon un principe de base, plus un symptôme, comme par un exemple un affaiblissement de la jambe, persiste, moins il est probable qu'il disparaisse avec le temps. Comment une personne peut-elle être traitée après avoir eu une attaque cérébrale? Premièrement, tous les facteurs de risque dont nous avons parlé doivent être pris en considération et si l'un d'eux vous concerne, vous devez vous faire traiter. Par exemple, si vous fumez, vous devrez arrêter. Ou si votre tension est haute, vous devrez veiller à mieux la contrôler. Deuxièmement, vous devez voir avec votre médecin quels médicaments prendre. Si jamais vous devez en prendre après votre attaque, ne faites pas comme Azaf, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments pour quelque raison que ce soit sans l'avis de votre médecin. Troisièmement, faites en sorte que les membres de votre corps affaiblis à cause de l'attaque cérébrale travaillent. Enfin, nombreux sont ceux qui dépriment après une attaque cérébrale. C'est un moment difficile pour eux, ils doivent donc recourir à un médecin pour avoir de l'aide. Quel que soit cependant ce que la médecine moderne ou traditionnelle peut offrir, elle ne pourra jamais vous procurer le bonheur. Dans la Bible qui a montré à Azaf comment avoir la vie éternelle, Jésus-Christ nous dit à tous ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir la vraie vie et une vie qui a un sens maintenant et pour l'éternité. Et si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, alors je vous dirai encore aujourd'hui, bienvenue dans le royaume de Dieu. Abdoulaye Sango et Fidèle Atse vous y accueilleront un jour.
Maladie ou santé, à votre choix. Dieu est l'auteur de la vie, le créateur de notre corps. Il est le docteur par excellence. Confiez-lui votre corps comme un temple qui lui agrée d'habiter.
En suivant les conseils de la parole de Dieu, vous préservez et votre santé physique et votre relation avec Dieu pour l'éternité. Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »